Le journal Yves Decan. Bonjour Yves.
Bonjour.
Il faudra dire maintenant l'Europe des 27. Le Royaume-Uni a largué les amarres à minuit, heure française, et repris sa liberté selon les Brexiteurs. Les autres, les anti-Brexit, se disant résignés. C'est une période de transition qui s'ouvre jusqu'à la fin de l'année. Mais déjà ce matin, les eaux de Guernesey ont été provisoirement interdites aux pêcheurs français. Une première nuit de confinement pour les Français rapatriés de Chine. Hier, ils seront soumis à quarantaine pendant 2 semaines. Les tests réalisés sur 2 personnes hospitalisées à la Timone sont négatifs. L'épidémie de coronavirus s'étend en Chine où 12 000 personnes sont aujourd'hui contaminées. Dans ce journal également, le Conseil d'État qui retoque la circulaire Castaner sur les municipales et le nuançage des listes. La mort de Mary Higgins Clark, la reine du suspense, 100 millions de livres vendus dans le monde. Elle avait 92 ans. Et puis la victoire de l'américaine Sophia Kenin à l'Open d'Australie, c'est son premier titre du Grand Chelem. Enfin, un temps plus sec cet après-midi sur la moitié ouest, nous dira Jean-Michel Gonaski.
France Inter.
Ça n'aura pas traîné dès les premières heures du Brexit officiel depuis minuit. Les eaux de Guernesey ont été ce matin interdites aux pêcheurs français, sauf autorisations individuelles qui pourront être demandées aux autorités. La pêche, ce sera l'un des sujets les plus sensibles et les plus urgents des négociations qui doivent maintenant s'engager entre l'Europe et le Royaume-Uni, où les Brexiteurs ont fêté l'événement toute la soirée. Ce n'est pas la fin, mais le début, a promis le Premier ministre Boris Johnson en pronostiquant une nouvelle ère de coopération amicale avec l'Union européenne. C'est ce qu'espèrent aussi les Européens, on va y revenir. Outre-Manche, en attendant, on vit de façon très différente ces moments historiques, selon les opinions de chacun. Ce matin, c'était un peu la gueule de bois pour tout le monde, mais pour des raisons différentes. Isabelle Labéry nous appelle de Londres.
Pas d'effet coup de massue ce matin, plutôt un soulagement et une volonté d'aller de l'avant, même lorsque l'on aurait, comme Androula, préféré rester dans l'Union européenne.
On s'est réveillé en se disant que c'était vraiment une triste journée. Mais il faut être pragmatique, continuer, encaisser, comme pour n'importe quel grand changement qui se produit dans votre vie. Ça durait depuis trop longtemps, maintenant on y est. On doit accepter la réalité et avancer, en espérant qu'il en sortira quand même quelque chose de positif pour le pays.
Voilà, il va falloir maintenant négocier ce que seront les prochaines relations commerciales avec le Royaume-Uni. Il y a en théorie 11 mois pour aboutir avec un succès retentissant, a promis Boris Johnson.
Oui, le Premier ministre britannique promet un nouvel âge d'or pour cette vie hors de l'Union européenne, mais le Royaume-Uni fait d'abord face à un défi immense, définir en un temps record ce que seront ses nouveaux liens avec les 27, notamment en matière commerciale. Et le bras de fer a déjà commencé. D'après le Daily Telegraph ce matin, Boris Johnson aurait l'intention d'imposer des contrôles douaniers et frontaliers complets à toutes les marchandises européennes entrant sur le sol britannique. Pour Hélène, cela fait partie du jeu de la négociation. À moyen terme, cette citoyenne londonienne est plutôt optimiste.
Ce serait stupide de ne pas trouver d'accord. On fait du commerce avec l'Europe depuis plus de 1000 ans. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on n'y arriverait pas. Bon, il y aura toujours un gagnant et un perdant, mais on est des gens intelligents, non? On veut faire du commerce avec vous, vous voulez en faire avec nous, alors on va y arriver.
Les choses sérieuses vont commencer dès lundi, puisqu'à Londres, Boris Johnson et à Bruxelles, le négociateur Michel Barnier annonceront chacun les grandes lignes de leur feuille de route.
Isabelle Labéry à Londres, les négociations sont prévues pour durer 11 mois, ce qui paraît bien court, vu le nombre et l'ampleur des questions à régler. Dans un premier temps, jusqu'à la fin de l'année, rien ne changera vraiment. Mais pour la suite, mystère. Les Européens répètent qu'on ne peut être dedans et dehors. Pour la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, le Brexit ne peut pas ne pas avoir de conséquences.
On entend au Royaume-Uni des gens nous dire « voilà, c'est formidable, les pêcheurs britanniques vont pouvoir être les seuls à pêcher dans les eaux britanniques bon, ». Aujourd'hui, il faut savoir que 40% du poisson français est pêché dans les eaux britanniques, mais il faut aussi qu'ils sachent que ce poisson britannique, il est à 70% exporté vers l'Union européenne, qu'il est transformé à Boulogne. Donc si on veut rentrer dans la guerre commerciale, si on veut rentrer dans l'escalade, à la fin, tout le monde perd.
Mais qu'est-ce qui empêche Boris Johnson, à terme, de se tourner vers d'autres marchés, l'Afrique, la Chine, les États-Unis?
Mais ils sont juste beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ils exportent 2 fois plus vers l'Union européenne que vers les États-Unis. Si leur objectif, c'est d'exporter vers les États-Unis, c'est leur choix. Mais de manière réaliste, pragmatique, 5 millions de camions qui vont de Calais à Douvres. Donc ce que l'on leur dit, c'est on ne veut pas vous punir, on ne va pas prendre de revanche. En revanche, nous voulons pouvoir avoir les mêmes règles parce que nous devons protéger notre marché intérieur et nous devons donner des garanties à nos pêcheurs, à nos agriculteurs, à nos entreprises. Il parle coopération amicale. Moi, je tiens à ce que surtout, ça soit une coopération loyale.
Amélie de Montchalin, ce matin sur France Info. Une première nuit de confinement à Carry-le-Rouet, près de Marseille, pour les Français rapatriés de Chine, de Wuhan. 180 personnes installées dans un centre de vacances où ils devront rester 2 semaines et dont les gendarmes surveillent d'ailleurs l'unique entrée. On a entendu ce matin sur France Inter l'inquiétude de certains riverains que les autorités veulent évidemment rassurer. Toutes les précautions sanitaires sont prises, répète la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui annonce l'arrivée demain d'un deuxième groupe d'expatriés. Les 2 personnes hospitalisées à La Timone hier ont été testées négatives au coronavirus. Le nombre des infections en France reste donc inchangé à 6 personnes. En Chine, en revanche, le bilan s'alourdit. 12 000 personnes contaminées, 259 morts. Et dans de nombreux pays, bien sûr, des mesures exceptionnelles de restrictions se multiplient pour les vols en provenance de Chine où les réservations sont en chute libre. Cette crise sanitaire ne sera pas sans conséquences importantes, évidemment, pour les secteurs du tourisme et du transport aérien. Philippe Lefebvre.
Côté transport, 15 compagnies aériennes ont suspendu tous leurs vols vers la Chine, de British Airways à El Al, en passant par Royal Air Maroc, KLM et Air France. Pour la compagnie nationale, c'est d'ailleurs un gros manque à gagner, puisqu'en temps normal, elle programme 26 vols par semaine entre la France et la Chine. En revanche, côté chinois, pas de changement. 8 appareils d'Air China ou de China Eastern devraient se poser aujourd'hui à Roissy-Charles de Gaulle. Du côté des tours opérateurs et des agences de voyage, là, la tendance est aux annulations, y compris pour des départs au printemps prochain. Il est vrai que les images en provenance de Chine n'incitent pas les touristes à maintenir leurs projets pour des voyages généralement assez coûteux. Jean-Pierre Masse est le président du syndicat des entreprises du voyage.
Les sites touristiques ne sont plus accessibles. Les Chinois les ont fermés. On assiste déjà à des annulations, des demandes de report. On va assister à des baisses de réservations. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de réservations actuellement. Et notre crainte, au-delà de la Chine, c'est la contamination psychologique à toute l'Asie touristique. Et alors là, les répercussions, si c'était le cas, les répercussions seraient autrement plus importantes que sur la seule Chine.
Pour le moment, on n'en est pas encore là, même si plusieurs tours opérateurs français ont mis en place des cellules de veille dans leurs entreprises.
Ce matin, plus de 300 appels ont été enregistrés en 2 heures au numéro vert mis en place par le gouvernement pour toute question non médicale. Sinon, il faut appeler le 15. Ce numéro vert, c'est le 0800 130 000. 130, 3 fois 0. Ce qui s'appelle un tacle pour le gouvernement. Un nouveau rappel à l'ordre du Conseil d'État après la réforme des retraites qu'il avait jugée en partie lacunaire. C'est aujourd'hui la circulaire Castaner sur le nuançage des candidats aux municipales que le Conseil d'État suspend. En partie, la circulaire adressée par le ministre de l'Intérieur au préfet leur demandait de ne plus attribuer d'étiquette politique aux listes candidates dans les communes de moins de 9000 habitants. 6 recours avaient été déposés, notamment par le PS et les Républicains. Le ministre Christophe Castaner annonce qu'il modifiera bien entendu la circulaire en conséquence, mais sans renoncer à ce qui était, dit-il, une demande des élus locaux. Quoi qu'il en soit, ça fait désordre d'autant plus, Cyril Graziani, que depuis le début de cette année, pour le gouvernement, c'est un peu quoi qu'en stock.
C'est un camouflet dont le gouvernement se serait bien passé, mais prévisible. Hier, le Conseil d'État a atomisé la circulaire Castaner, limitant l'attribution d'une couleur politique aux candidats aux municipales et obligeant donc le ministre de l'Intérieur à revoir sa copie. Sa collègue de la justice, Nicole Belloubet, elle avait en milieu de semaine assuré ne pas remettre en cause le droit de critiquer la religion après avoir assimilé à propos de l'affaire Mila cette jeune femme menacée sur les réseaux sociaux. La critique des religions a une atteinte à la liberté. Elle a finalement plaidé la maladresse. Emmanuel Macron n'est pas en reste. Il y a eu l'affaire du t-shirt LBD au salon de la bande dessinée d'Angoulême où il a réussi à braquer les policiers et en même temps les manifestants. Quelques jours plus tôt, le président avait subi une petite humiliation de la part de Cédric Villani après un tête-à-tête à l'Élysée. Dans les deux cas, les proches du chef de l'État ont refusé d'avouer une quelconque erreur de sa part. Même si en coulisses, certains n'hésitent plus à faire part de leur inquiétude après ce début d'année raté.
En bref, la reprise du travail votée à Marseille par la CGT Marin, les liaisons de la Méridionale et de Corsica-Linéa devraient donc reprendre entre la Corse et le continent. La grève contre la réforme des retraites se poursuit en revanche dans les centres d'incinération d'Île-de-France où 6000 tonnes de déchets restent en rade chaque jour dans les 3 usines de la région. À Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine et Saint-Ouen, les sites de stockage sont saturés, les camions poubelles ne sachant plus où décharger leur cargaison. La collecte des poubelles est perturbée. occupés. Le préfet d'Île-de-France vient d'ordonner la réquisition des personnels pour des raisons de salubrité publique, Julie Pietri.
À Ivry-sur-Seine, la fosse gigantesque dans laquelle sont stockés les déchets avant d'être brûlés est pleine. Alors les 200 camions qui s'y arrêtent quotidiennement sont priés d'aller voir ailleurs. Nous voulons que notre revendication, le retrait de la réforme des retraites, soit entendue, assume Julien Lambert de la CGT Énergie.
Je prends rien que le sujet de la pénibilité. Comme beaucoup d'endroits, on est sur bruit, chaleur, poussière, des travaux posés de nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pénibilité, c'est un vrai sujet en soi, afin que les gens puissent partir des fois plus tôt, du fait qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler dans les bonnes conditions.
Avec la réquisition de la préfecture, les sites vont fonctionner à minima. Pas d'incinération, mais au moins la possibilité pour des camions-bennes de venir vider les fosses pour faire de la place et relancer la collecte. Problème, tous les déchets termineront en décharge, déplore Martial Lorenzo, le directeur général du SICTOM.
C'est un risque environnemental majeur. L'habitude, ça n'est pas d'enfouir les ordures ménagères. Les ordures ménagères sont incinérées et produisent d'ailleurs de l'énergie, de la vapeur. Donc c'est d'abord une énergie qui n'est pas produite et qui est donc remplacée par de l'énergie fossile. Et d'autre part, des ordures ménagères qui sont enfouies pour l'éternité.
Sur la question environnementale, la CGT rétorque qu'une petite partie des déchets est de toute façon enfouie chaque année en décharge et que si le dossier nature est une priorité, le dossier retraite l'est aussi.
Le nombre de morts sur les routes de France en léger recul en 2019, 3239 décès, 9 de moins qu'en 2018. Chiffre historique pour Christophe Castaner, qui défend bien sûr le passage aux 80 km sur les routes secondaires. Et puis c'est fini, merci. France Antilles, le seul quotidien de Guadeloupe, Martinique et Guyane, a sorti ce samedi sa dernière édition après 56 ans d'existence et après la liquidation judiciaire prononcée jeudi. 235 salariés se retrouvent sur le carreau. Une cinquantaine de livres, plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, la plupart aux États-Unis. Elle était ce qu'on appelle un phénomène littéraire. Mary Higgins Clark est morte hier à 92 ans. La reine du suspense, dont beaucoup de titres ont été adaptés au cinéma ou en télé, avait enchaîné les best-sellers. Depuis son premier grand succès, La Maison du Guet, c'était en 75. Parmi les plus connus, La Nuit du Renard ou bien Nous n'irons plus au bois. Pas de la grande littérature, sans doute, diront les puristes, mais un grand savoir-faire, Jacqueline Pétrose.
Alors, grande lectrice d'Agatha Christie, Mary Higgins Clark a toujours aimé le suspense. Veuve à 30 ans, elle est alors dactylo et pour nourrir mieux ses 5 enfants, dit-elle, elle écrit des nouvelles et des feuilletons pour la radio sans réussir à être publiée. Vous le dites, en 75, elle se lance dans le roman, c'est un coup d'éclat. La Maison du Guet sera d'ailleurs rééditée plus de 75 fois. Elle sort alors en moyenne un roman par an. Ses détracteurs y voient une écriture facile. Le prologue est capital, disait Mary Higgins Clark. Si vous écrivez qu'un coup de feu éclate dans la nuit, tout le monde voudra savoir pourquoi. Les femmes sont les héroïnes de ces romans, des femmes fortes, comme elle le disait en novembre à Augustin Trapenard.
J'ai écrit sur des femmes qui ont trouvé la force de surmonter leurs difficultés. Elles ne sont pas sauvées par un prince sur son cheval blanc. Elles doivent se débrouiller seules. Elles doivent être indépendantes.
En secret, son dernier roman paru en novembre chez Albin Michel, mêlant harcèlement sexuel et disparition sur fond de MeToo, était comme toujours dans l'air du temps. Écrivant depuis qu'elle avait 7 ans, elle avait dit qu'elle écrirait jusqu'à sa mort. Promesse tenue.
Et dans ses mémoires publiées en 2003, il écrivait que gagner à la loterie rend heureux un an, mais faire ce qu'on aime rend heureux toute sa vie. Un mot de sport pour conclure. La surprise du chef venu d'Australie ce matin, où l'américaine Sophia Kenin, 15e mondiale, a remporté l'Open d'Australie, son tout premier titre du Grand Chelem. Elle a battu en finale l'Espagnole Garbine Muguruza en 3-7, Fabrice Abgral.
Sophia Kenin joue avec une raquette aux couleurs des États-Unis, mais elle est d'origine russe. Ses parents, Alexandre et Svetlana, ont émigré aux États-Unis en 1987. Sophia Kenin touche sa première raquette à l'âge de 5 ans. La gamine est douée et son père l'encourage à continuer. La petite Sophia se prend au jeu et gravit les échelons. Elle passe professionnelle en 2017. C'est alors l'ascension fulgurante. Sophia Kenin se révèle véritablement l'année dernière en remportant ses 3 premiers tournois et en octobre, elle intègre le top 15 mondial. Sophia Kenin disputait aujourd'hui sa première finale en Grand Chelem et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Sur le court, Sophia Kenin est une véritable pile électrique bourrée d'énergie. C'est une joueuse hargneuse, parfois même un peu chippie. Elle n'est jamais contente, elle râle, s'agace, s'énerve, mais c'est sa façon de rester concentrée. Avant ce triomphe australien, Sophia Kenin, âgée de 21 ans, n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem et jamais été plus loin que le deuxième tour à Melbourne. Grâce à ce succès inattendu, Sophia Kenin va devenir lundi la nouvelle septième joueuse mondiale. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
Et demain, la finale des garçons Team Djokovic. Ce week-end aussi en sport, l'ouverture du tournoi des 6 nations. Bien sûr, Galles-Italie et Irlande-Écosse dès cet après-midi. Le gros morceau d'entrée de jeu pour les Bleus demain. France-Angleterre au Stade de France. 13h15, c'est la fin de ce journal raccourci pour cause de grève à Radio France. Tout de suite, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps plus sec et plus variable cet après-midi sur la moitié ouest du pays que sur les régions de l'Est, où les pluies matinales arrivées par l'océan vont donner des précipitations soutenues sur les reliefs et de la neige au-dessus de 2200 mètres sur le nord des Alpes, avec la persistance d'un fort risque d'avalanche. Près de la Manche, le vent de secteur ouest sera sensible avec parfois des ondées dans des températures partout au-dessus des normes, vers 13 degrés de moyenne dans la moitié nord et 16 au sud. Demain, les valeurs toujours plus douces atteindront 15 à 18 degrés en général avec des pointes à 24 au sud de la Garonne, dans une ambiance assez bien ensoleillée au sud d'un axe Bordeaux-Grenoble, mais avec des pluies souvent marquées sur les deux tiers nord du pays, auxquelles il faudra ajouter la fonte du manteau neigeux en moyenne montagne et un risque d'avalanche de plus en plus fort pour le nord des Alpes.